Alors, de quoi voulez-vous que je parle? Au moins, j'ai pris quelques notes en vous écoutant. Merci. Alors, je vais vous présenter des excuses, car je n'ai pas préparé du tout de PowerPoint, comme on dit. C'est très bien, ça vous changera. Les militaires, ils font toujours ça. Moi, je ne le fais pas, jamais. Donc, je vais simplement évoquer avec vous un peu les politiques de mémoire françaises et un peu plus comme acteur, puisque j'ai eu à m'occuper beaucoup des politiques de mémoire françaises. Je m'en occupe encore au ministère des Anciens Combattants et de la Mémoire. Et donc, j'aimerais simplement vous expliquer les problèmes rencontrés par la France pour faire émerger une mémoire de la déportation homosexuelle. C'est bien de cela que je voulais que je parle. Donc je vais, avec le côté officiel, avec la vision officielle, en vous expliquant qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe et pourquoi il y a quelquefois des problèmes et quelles ont été les chronologies en quelque sorte, le temps de la montée et de la reconnaissance d'une déportation homosexuelle. J'aimerais donc vous rappeler d'abord que lorsqu'on parle de déportation homosexuelle, on parle d'abord de déportation. Et que nous ne pouvons pas évoquer le problème de la déportation homosexuelle si nous n'évoquons pas le problème de la montée commémorative de la déportation. Or, en France, la montée commémorative de la déportation se fait d'une manière particulière. En 1945, lorsque les déportés reviennent, ils reviennent dans une masse de gens qui reviennent, et je rappelle en particulier, puisqu'on est exactement au 70e anniversaire, si vous allez à la gare d'Orsay, c'est-à-dire au musée d'Orsay, c'est là que sont revenues 1 500 000 personnes entre avril et juin 1945. Et dans ces 1 500 000 personnes qui reviennent entre avril et juin 1945, il y a bien sûr tous ceux qui ne reviennent pas, et je pense là à la déportation de la Shoah massivement, mais ceux qui reviennent, c'est les prisonniers de guerre, c'est les requis du travail obligatoire, et ce sont les déportés. Et en 1945, lorsqu'on commence à commémorer le retour, on oublie la déportation. Je dis bien, on n'oublie pas la déportation homosexuelle, on oublie la déportation. En 1945, dans la mémoire qui se met en place en France, il n'y a pas de place pour les déportés. Il y a une place pour les résistants, il y a une place pour les combattants avec uniforme, il y a une petite place pour les prisonniers de guerre, mais il n'y a pas de place pour les déportés. C'est à un tel point qu'on mélange en France les requis du travail obligatoire et les déportés. 1945, grosso modo, jusque dans les années 1950, on en est là. Et à partir des années 1950, on voit émerger le combat d'une mémoire à part de la déportation. Cette mémoire à part de la déportation, elle se fait contre les autres. Et la mémoire qui se met en place, en définitive, est d'abord et essentiellement une mémoire de la déportation résistante. Et je vous écoutais à travers tous les monuments que vous présentiez. C'est en fait l'émergence du triangle rouge. Ce n'est pas le triangle rose qui émerge, c'est le triangle rouge. Et si vous voulez voir des triangles rouges, vous allez au Père Lachaise, allez au Père Lachaise, près du mur des fédérés, vous allez trouver là tous les monuments de la déportation résistante, et vous allez voir du triangle rouge partout. Émerge à partir des années 1950, le triangle rouge qui devient le symbole de la déportation et qui émerge, monte et porte la création en lui de la journée de la déportation en France qui se place le dernier dimanche du mois d'avril, qui devient la journée commémorative de la déportation, mais qui est en fait une journée commémorative de la déportation résistante. Nous sommes là au deuxième temps. À partir des années 1970, 75, 80, émerge la déportation juive, c'est-à-dire la Shoah. La Shoah qui va petit à petit prendre son individualité, qui va prendre sa place dans un combat. Vous ne faites pas d'illusion, la mémoire est toujours un combat. Vous ne faites aucune illusion, la mémoire ça ne vient pas comme ça, la mémoire c'est toujours un combat. Le reste vous oubliez. Et la mémoire de la déportation juive, la mémoire de la déportation de la Shoah, c'est un combat. C'est un combat qui s'installe en France contre quelque part ou à côté de la mémoire de la déportation résistante. Arrive là n'est-ce pas, l'étoile jaune, le triangle jaune qui va s'imposer. Et comment, en termes symboliques, cela s'impose? C'est simple. Quand on parle de mémoire de la résistance, on parle encore à des, j'allais dire, des déportés rentrants. Et quand vous regardez les monuments, allez toujours au Père Lachaise, vous allez voir que la mémoire de la déportation en résistance, ce sont des cadavres ambulants qui rentrent. Mais ils rentrent. 50%, 60% des déportés résistants français sont revenus. Quand on parle de la déportation de la Shoah, on ne rentre plus. C'est les cendres qui rentrent. Et nous passons par une mémoire qui devient une mémoire d'urne de cendres avec une déportation, une mémoire de la déportation de la Shoah. Alors, comment arrive la mémoire de la déportation homosexuelle? Eh bien, avec difficulté, c'est le moins qu'on puisse dire, n'est-ce pas? Avec difficulté. Et elle arrive en France en utilisant les outils mémoriels qui existaient. Donc elle arrive comment? À partir des années 1980, vous voyez l'utilisation de la journée de la déportation du mois d'avril, où vous avez une tentative d'inclure la mémoire de la déportation homosexuelle au sein des journées de la déportation. Et ça ne se passe pas facilement, hein? Vous collecteriez, n'est-ce pas, Régis le sait, vous collecteriez un tas d'articles de presse qui montrent que la déportation résistance, qui vient déjà de lâcher face à la déportation juive, n'accepte absolument pas la présence de la déportation homosexuelle à l'intérieur de son schéma mémoriel ou de son schéma commémoratif. Et la première existence, la première tentative d'exister de la déportation homosexuelle se fait sur les journées de la déportation. Alors, face à cela, que va faire l'État? Ben, l'État, d'abord, il fait rien. Formidable. C'est ça, la démocratie. Moi, j'aime bien la démocratie. Parce que l'État ne commence à faire que quand vraiment il est poussé. Alors, c'est la différence entre une démocratie et une dictature. L'État, je le rappelle, il faut vraiment qu'il soit poussé pour faire. J'insiste beaucoup, hein. Les pays qui s'emparent des politiques de mémoire, c'est des dictatures. Alors, ça, ils savent faire. L'État, dans une démocratie, ben, il attend vraiment, il attend le dernier moment quoi, pour faire. Donc l'État, d'abord, il a mis beaucoup de temps pour faire. Il a mis beaucoup de temps pour faire. Et à partir de là, comment a-t-il fait? Comment a-t-il fait pour la mémoire de la déportation homosexuelle? Ben, j'ai tendance à vous dire qu'il a fait trois choses. Il a premièrement essayé d'inclure la déportation homosexuelle dans cette fameuse journée de la déportation, la fameuse journée du mois d'avril. Avec une présence d'abord marginale, extérieure à la cérémonie. Enfin, on a eu des grands moments, hein. On déposait une gerbe pour la déportation homosexuelle à la fin de la cérémonie, quand toutes les autorités étaient parties. Le combat était un combat fort pour rentrer la gerbe à l'intérieur de la cérémonie, y compris la journée nationale. Bon. Donc petit à petit, ça s'est fait à Paris, en province. Donc le premier combat et la première acceptation de l'État ou des collectivités territoriales, quand je parle de l'État, je parle de l'ensemble des politiques, c'est d'abord l'acceptation dans la journée d'avril de la présence de la mémoire de la déportation homosexuelle. Là, le second geste a été la présence dans les discours. J'écoutais tout à l'heure votre propos sur les discours, bien évidemment même chose en France. La présence dans le discours et les tournants, 1995, 2005, les discours officiels, où vous voyez entrer la déportation, la référence à la déportation homosexuelle dans les discours de l'État, jamais encore dans les messages, c'est un peu plus compliqué, mais en tout cas dans les discours de l'État, les discours officiels des présidents de la République, que ce soit Chirac ou Sarkozy, vous voyez arriver la référence, ce qui était tout à fait nouveau. Troisième expression de cette mémoire homosexuelle, exactement les mêmes références que nous venons de voir en Allemagne, aux Pays-Bas ou en Israël, le problème du monument. Car vous le savez, on vous l'a très bien montré tout à l'heure, une politique de mémoire, c'est aussi une matérialisation patrimoniale. Voilà, c'est une matérialisation. Donc pour qu'il y ait véritablement politique de mémoire, il faut qu'il y ait des temps carillonnés, c'est les cérémonies, mais il faut aussi qu'il y ait des lieux qui soient matérialisés. Or, en France, c'est compliqué. C'est compliqué parce que la déportation homosexuelle, autant nous la comprenons très clairement en Allemagne. Elle a eu lieu, véritablement. Autant c'est déjà beaucoup plus compliqué aux Pays-Bas, on vient de le voir tout à l'heure, dans l'expression qui a été présentée. En France aussi, c'est compliqué. Pourquoi ? Parce que la déportation homosexuelle, lorsqu'on fait les études historiques, elle est très clairement une déportation homosexuelle qui vient, j'allais dire, des autorités allemandes, c'est-à-dire des zones annexées. Et ce qui veut dire que, dans la mémoire de la déportation homosexuelle, la force alsacienne est très prenante. La force alsacienne, pas pour rien. Force alsacienne, il y a une vraie mémoire de la déportation homosexuelle en Alsace, c'est-à-dire les zones annexées par l'Allemagne, les zones annexées. Et c'est clair qu'il y a une mémoire de la déportation homosexuelle dans les camps de Schirmeck, le grand camp de déportation, redressement pour les Alsaciens et les Mosellans, mais aussi dans le camp du Struthof, d'une part pour cette présence alsacienne-mosellane, mais aussi pour cette présence des homosexuels venus de Dachau, qui étaient des homosexuels allemands, qui ont été martyrisés à un point extrême dans la construction du camp du Struthof. Pourquoi je vous raconte ça ? Je vous raconte ça parce que vous comprenez que la France, quand il a fallu matérialiser la mémoire de la déportation homosexuelle, eh bien, elle l'a fait au camp du Struthof. Au camp du Struthof, il y a là une plaque qui rappelle in situ que là, il y a une mémoire de la déportation homosexuelle. Je terminerai par vous dire, et puis nous sommes au 70e anniversaire. Ce colloque que vous avez aujourd'hui rentre parfaitement dans un moment fort de la mémoire. 70e anniversaire, ce n'est pas un anniversaire neutre. Ce n'est pas un anniversaire banal. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'il y a deux anniversaires importants, le 40e et le 70e. Tous les autres, vous pouvez vous en passer. Le 40e, parce que c'est le moment où il y a encore tous les chefs qui ont joué un rôle, ils sont encore vivants, compte tenu de la longévité aujourd'hui de la vie. Et le 70e, c'est le moment où vous avez encore des survivants, en nombre suffisamment nombreux pour pouvoir témoigner. Au 80e, vous êtes tranquille, il n'y a plus personne. Et au centenaire, il n'y a plus que des historiens. Donc, c'est pire, catastrophe. Donc, méfiez-vous, le 70e, c'est un anniversaire excessivement important. Alors, qu'est-ce qui se passe pour ce 70e anniversaire en France ? Ce colloque, d'abord, qui a été reconnu et homologué par l'État comme un colloque important, reconnu comme une pièce forte des politiques de mémoire et des politiques de recherche historique sur la déportation homosexuelle. Le deuxième geste, il va avoir lieu dans quelques jours. Il aura lieu le 26 avril 2015. Le président de la République, François Hollande, sera au camp du Struthof pour une cérémonie excessivement importante, parce que le choix qui a été fait pour la journée de la déportation a été de faire deux cérémonies. Une cérémonie le matin au mémorial de l'île de la Cité, je ne vous en ai pas parlé, mais mémorial traditionnel de la journée de la déportation à Paris. Et l'après-midi, une grande cérémonie au camp du Struthof, qui replace la mémoire du Struthof dans une mémoire européenne. Il y aura là toutes les autorités européennes qui seront présentes auprès du président de la République. Et dans le discours du président de la République qui se prépare, il y aura évidemment une référence forte à la mémoire de la déportation homosexuelle, puisque vous ne pouvez pas aller au Struthof en occultant cette page mémorielle. Et c'est la première fois qu'un président de la République ira véritablement dans un échelon européen et dans une vision européenne pour rappeler qu'il y a là une mémoire de la déportation homosexuelle. Je vous remercie.
Merci pour ces informations en avant-première. Et vu que vous avez conclu sur la question européenne, maintenant, Madame Renström, j'espère que je prononce bien, I hope I pronounce correctly your name, va justement évoquer la manière dont l'Assemblée des régions du Conseil de l'Europe traite ces questions et comment elles sont déchargées dans le dernier rapport, the last report you did about LGBT question in Europe. And if you want, you can come, otherwise you can stay and sit if you prefer. Yeah? Thank you very much.
Let's talk at this one. Thank you very much for being here, for inviting me.
They have prepared a long statement here that I was supposed to say, but after listening to this day, I don't think I'm going to make that statement. I'm just going to talk, make some reflections. You know, when you're representing an organization, they're always very keen on that you should say the right thing, but they're not here now, so I just talk to you. I'm a representative of the Congress of Council of Europe, and in the Congress, there is all the local and regional politicians sitting. And listening to this day, I must say that I realized so much that you really must have all the history and the past, and that you also must be aware of and honest about how the present situation looks like. Because otherwise, as a politician, you can't make the right decisions and you can't make the right movements for what you want to change in the future. And this has really been a lesson for me to listen to about the history of this group of people. You heard before that there have been a lot of resolutions, recommendations in the Council of Europe. To 2010, it was the Council of Ministers that made a recommendation. But also from the Congress side, from the local regional side, there was a report 2007 that talked about the freedom of assembly and the freedom for demonstrations and so. And then there has been a recommendation 2013 from the Parliamentary Assembly. And now, 2012, I did my report that was actually adopted yesterday, Wednesday it was. And that one is about guaranteeing lesbian, gay, and bisexual, and transgender people's rights and how to work with this in Europe's towns and regions. I'm saying this because I want you to know that there has been a lot of reports looking into the issue, but then you can always ask yourself what has happened. What do happen when you do make a report? Does people take it seriously? Do they say that, oh God, this will must change? No, they don't. So when I saw this report from 2007, we said that we must make a new report and see how it looks like right now. And I didn't focus on the freedom of assembly or freedom of speech, but I focused on the responsibility at the local or regional level for politicians. How do people live and how do people's everyday life is today in Europe? And when I say Europe, I don't mean European Union, because usually youngsters and other people always confuse those things. I mean Europe is 49 countries it is, and 47 of those belongs to the European Council. Should I ask them what two countries are not? Two countries are not belong to the European Council, and that is actually Belarus and also the Vatican State, because none of them are considered to be democracies. This morning you heard the speaker say that all the countries, states that are in European Council actually have signed all the resolutions and recommendations, and they accept the human rights issues. These things that they are going to work with, even if it's not binding to do that. And this is, when you think about it, 47 countries, a lot of different traditions, a lot of different thinkings. There is a report that the European Union Agency for Fundamental Rights did 2012, and this report is only about the EU 28 states. And in that report, that is the biggest report I've ever done about the situation for LGBT persons, you can find out that regarding country, you can say that the situation is not especially good. In the movie, you heard this lady saying that she was born in the wrong time because when she had to hide her identity. But if she had lived today, she could be open with it. But that's not true. That's not true in most of the countries in Europe. You can't be open with it. You're still hiding what you are. And that is not acceptable in our modern time, as I see it. So when you see this report from FRA, you can still see that people are feeling discriminated because of their sexual identity. They're still feeling the employment's affected of it. The housing, the living, they're still being discriminated if they're homosexual because people don't want to have homosexuals at the door next door to them. They're still feeling discriminated in schools and educational systems. their health are much worse than other people's. And that's because when they go to the healthcare system, they don't feel accepted as they are. They're not being open with who they are. So they don't get the right treatments, or they don't seek the treatment at all, because they say that they're not going to understand me or my problems. So they actually can see in the statistic that the health are worse in this group of people. And also, when it comes to safety and security, I mean, when people don't dare to actually tell that they are being harassed or violated, that they don't dare to go out, and they don't go to the police because they said that it wouldn't matter because the police are the same, we don't live in a state that really takes care of the safety of all citizens. And this is actually a responsibility for the local and regional politicians. And this is what I really stress in my report, regarding trying to also give good examples, because there are good examples, and a lot of, you know, all those rainbow cities, because the expert that wrote the background to my report is Jules van Hoff, that's working with the rainbow cities, and she knows a lot about good examples been done around Europe. So I'm not just making a black view of the situation, because you have to see that all the good examples really exist, but you also have to be honest about that this is just good examples. And especially, you know, that when there's legislation in other European cities that really says that the prohibition of, you know, propaganda, that you shouldn't be talking about this. And when I did the first presentation of my report, I knew that there would be some comments about from the Russian, the Ukrainian, the Georgian, you know, those states that really made negative legislation about this. And I was sort of curious about what kind of arguments would they have, what would I have to meet when I was discussing this. And the arguments were like this: well, there's nothing wrong with LGBT people, we totally accept them, but it is not normal, and we shouldn't have to see it, because it's private, so they can be whatever they want to at home, but not in public. And parents must have the right to sort of protect their children from things that are not normal. And as when I listen to this, I mean, for once, I do get a bit depressed hearing those kind of arguments. But then also I get a bit disappointed, because I think they are not more clever than that. And they're not more original than that. I was sort of hoping to get some more intellectual arguments for this, but I don't. So when it comes to my report, I'm stressing so much a political responsibility about the legislation, but also about the hate speeches, and that politicians must show the good example, too, because the thing they say shows in the way the society acts. And you can't say that this is personal, because I still meet politicians, even though in Sweden, that say that, well, of course we don't discriminate people, but, well, I really don't understand this. I could never be homosexual. And I said, who cares? I didn't ask about that, what you personally think about things. I mean, I meet this that in Sweden, and we're very, very politically correct in Sweden. So that tells me a lot about how things are discussed or how people work in other countries. And when politicians really do take hate speeches or say things like that, it changes the society into really believe that it's okay for discrimination of some certain groups. And I said that when you're signing a paper or a solution about human rights, you don't sign a document that says that human rights are for all people except some. I mean, human rights are for all people. So, and now I'm going to be more. When it comes, I also talk about the importance of making actions, the showing up, symbolic actions, doing, being part of demonstrations, being part of actions, and being part of like monuments like this for the memorials, because it is very important to show that this is an important issue. And sometimes it's also hear people saying that, well, this is just a homosexual group, what is so rather important with them? you know, why is this such a big input? Because it's all because of, that's why one of the men from Russia said, this wouldn't have been an important thing if it hadn't been for all those organizations, you know, working with this, because they're so loud. Otherwise, no one would have cared about this. And I said to him, well, it is not, because this is one group of people that we think, you think, is you have the right to discriminate. But when you do this with this group, when will you do the same thing with next group, and the next group, and the next group? Because discrimination is not something that is just belong to one group, or that you should not do to another group. It just changes. So if you think it's right to discriminate anyone, you should really think about how you think about people as a whole. So therefore, it is important to do these things. And like I said, it is important to remember what you've done in the past, so it's not going to happen again, and that you're going to make the right things in the future. So I say like this, that you have to know the past, you have to be honest about the situation in the present, and as a politician, you have to really make the future better for all people. Thank you.
Un grand merci, thank you very much. Donc il nous reste officiellement et légalement 10 minutes pour les conclusions. Ensuite les grands chefs s'arrangeront s'ils souhaitent qu'il y ait plus de temps. Donc Fabrice Virgili dans un premier temps, Jean-Philippe Restouex dans un second.
Merci, bonsoir et encore un petit peu de courage. Donc c'est une sorte de sprint auquel je vais devoir m'atteler. L'idée de cette journée, je crois, est partie d'un pari, d'un constat et d'un pari. Et évidemment, en fin de journée, je vais dire qu'il est rempli, mais je vous dévoile à l'avance. L'idée, c'est qu'on se trouve un double moment, un moment mémoriel. Et je crois que Serge Barcellini l'a montré à l'instant, hein, du point de vue de la commémoration de la déportation des homosexuels. Et un moment historiographique, c'était dans les mots de Sandra Laugier tout au début de la journée, et c'est évidemment sur ce point que je voudrais m'arrêter. Le pari, c'est qu'il fallait peut-être sortir l'histoire des persécutions contre les homosexuels du tête-à-tête franco-allemand, ou je dirais même du tête-à-tête franco-français, comme le reste de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, qui aussi longtemps a été resté dans ce cadre-là. Et qui était temps et important et que probablement fécond de réfléchir à l'échelle européenne par la comparaison de différentes situations. De pays en guerre, de pays occupés, de pays de l'axe, mais également de pays neutres. Et je crois que ce choix a montré sa richesse et son intérêt. À l'échelle de l'Europe, il y a une évidence, au XXe siècle, les homosexuels, quel que soit le pays, que l'on soit en temps de paix ou en temps de guerre, que l'on soit sous le Reich nazi ou dans des pays démocratiques, ont été d'une manière ou d'une autre discriminés, à défaut d'être forcément persécutés. Discriminés, et quels sont les facteurs qui vont là du coup et qui sont apparus à mon avis aujourd'hui de différence? C'est d'une part évidemment dans la sévérité, le fait d'être enfermé dans un camp de concentration, voire assassiné dans le cadre d'une opération T4, comme nous l'avons entendu, et le cas du Troisième Reich nazi n'est pas le cas, bien évidemment, de bien d'autres pays. Mais aussi des différences dans la forme de ce rejet, de cette discrimination, de cette persécution. Forme légale, forme médicale ou forme sociale. Et là, j'insisterai, on est pour une grande partie d'entre nous des historiens, ou en tout cas nous travaillons sur l'histoire, le besoin aussi vis-à-vis de notre communauté scientifique de prouver que c'est un sujet légitime, un objet légitime d'étude. Pour nous, ça va de soi, mais ça ne va pas toujours de soi. Comme l'histoire des femmes et l'histoire du genre ont mis du temps à être connues, comme l'histoire de la mémoire aussi a mis du temps à être acceptée, parce qu'on était dans l'immédiat présent et que finalement, pour des gens qui se targuent d'étudier surtout le passé, ça paraissait bien trop présent, il était important de faire cette démonstration. Et tous nos intervenants ont montré que les sources existaient. L'accusation, entre guillemets, ou le soupçon de la non-existence de sources, hein, je crois qu'on en a fait clairement la démonstration contraire aujourd'hui. Il y a des sources, bien sûr il y a des sources de la répression, parce que, d'une certaine manière, elles sont faciles d'accès, mais il y en a bien d'autres, médicales, journaux, témoignages. Bref, il y a de quoi lancer de très nombreux sujets de recherche, de poursuivre ceux qui ont été entamés et de continuer bien d'autres sujets de recherche. Du point de vue de la loi, des nuances
on connaissait tous l'article 175, il faut maintenant avoir en tête l'article 129 pour l'Autriche, 121 pour l'Union soviétique, 248 bis pour les Pays-Bas, c'est-à-dire qu'il y a dans chaque pays des modalités différentes de pénalisation, et parfois il n'y en a pas, hein, des homosexuels. Avec ce cas, je trouvais emblématique de la Tchécoslovaquie, ou plutôt de la partie slovaque, au moment de l'annexion en 1938, vous allez avoir une partie où l'homosexualité va être dépénalisée, parce que c'est la loi polonaise qui s'applique, une partie où c'est l'homosexualité féminine qui va l'être, alors qu'elle ne l'était pas annexée par la Hongrie, ancien régime austro-hongrois, et deux différentes situations dans la partie annexée par l'Allemagne. Donc on voit une histoire à faire tout en nuances, ce qui n'enlève rien au fait dominant de la persécution ou de la discrimination, mais qui montre la richesse de cette étude plus fine. Dans le cas de la médecine, c'est pareil, je vais aller vite, mais les exemples suédois, soviétiques, autrichiens montrent aussi que la médecine est appelée, j'allais dire au secours, c'est sûrement pas au secours, mais est mobilisée plutôt dans cette discrimination, dans ce rejet. Également du point de vue social, parce que là on en a peut-être un petit peu moins parlé, mais l'importance des dénonciations familiales, je crois que c'était dans le cas de l'Alsace que nous avons vu ça ce matin, c'est-à-dire qu'il y a un rejet, bien évidemment, social. Il n'y a pas que l'État qui persécute, il y a aussi l'entourage, les familles, et parfois les familles plus proches, puisque là, c'était une femme qui dénonçait son mari. Quand on travaille sur la guerre, on sait à quel point l'intimité, la famille, et aussi le lieu dans lequel la guerre a toutes ses répercussions, les plus terribles soient-elles. Autre élément qui a été évoqué, et je crois que là aussi c'est une sorte de dépassement, c'est la question des femmes homosexuelles, et pas uniquement du point de vue numérique, parce que la question du nombre, et souvent la demande extérieure, la demande sociale vis-à-vis des historiens ou de toutes les sciences humaines, tourne autour du question du nombre, mais le problème n'est pas de savoir s'il y a eu tant ou tant, 10%, 1%, 2% de femmes persécutés par rapport aux hommes persécutés. C'est aussi une réponse à apporter, et ça a été fait par plusieurs orateurs. Mais c'est de voir que la question des lesbiennes pendant la Seconde Guerre mondiale, dans les différents pays, nous apprend beaucoup de choses sur la raison de cette persécution. Parce qu'une des grandes questions qu'on peut se poser et auxquelles les orateurs ont répondu d'une manière ou d'une autre, et il y a encore des réponses à apporter, c'est finalement pourquoi ? Les motivations sont différentes. Pourquoi s'en prendre aux homosexuels ? Parce qu'à certains moments, des États, des régimes vont considérer qu'ils menacent la race. Et c'est le cas du Troisième Reich nazi. À d'autres moments, parce qu'ils menacent la virilité guerrière. Et c'était le cas de l'Italie. Ou alors, j'ai envie de dire plus simplement et de manière peut-être plus étendue, ils menacent la morale publique. Et on trouve beaucoup de pays dans cette situation. Et c'est vrai que le fait que l'on s'en prenne aussi ou non aux lesbiennes, aux femmes homosexuelles, je pense, a été à plusieurs fois a été souligné comme justement un des révélateurs de quel est le projet finalement homophobe qui se trouve derrière ces différentes politiques. Deux points pour terminer. Évidemment, la question qui a été posée, et ce qu'on demandait à nos intervenants, c'est être homosexuel pendant la Seconde Guerre mondiale. Que les pays l'aient vécu directement sur leur territoire ou non, en état neutre. Et une des pistes à prolonger, c'est évidemment le rapport entre état de guerre et état de paix. On l'a vu pour l'Espagne, par exemple, pour la Russie, l'Union soviétique également, hein, ou pour la Hongrie, où les orateurs ont présenté finalement un champ chronologique plus large, mais qui soulève une vraie question. Est-ce que la guerre modifie de quelle manière cette question ? Est-ce que finalement le besoin d'hommes dans la troupe fait qu'on va être moins regardant et accepter finalement des hommes homosexuels qui auraient pu être refusés en temps de paix, ou au contraire, on va être encore plus sévère parce que les contraintes de la guerre permettent d'être plus répressifs et de persécuter plus fortement. Je crois qu'on a des réponses différentes selon les États, mais c'est vrai que c'est une vraie question pour tous ceux qui travaillent sur la guerre et l'intime, comment cette guerre va venir percuter finalement la vie sexuelle des individus, et c'est le cas de l'homosexualité. Avec cette autre question qui est l'univers non mixte qu'impose à bien des moments la guerre, favorise-t-il ou pas l'homosexualité ? Permet-il une homosociabilité plus facile qu'en temps de guerre ? C'est la question qui se pose pour les hommes soldats, mais je voudrais le rappeler également pour les femmes auxiliaires ou soldates. Hein. Teresca Torres, qui est une des premières engagées dans la France libre, est une auteure célèbre d'un ouvrage qui aura un grand succès dans les années 50, qui s'appelle Women in Barracks, et qui décrit l'univers homosocial lesbien des femmes volontaires auxiliaires du côté de la France libre et des troupes auxiliaires britanniques. Donc là aussi, parce que les travaux ont commencé, ont eu lieu et se poursuivent sur la question de la souffrance, de la persécution, je crois que cette journée a montré qu'on peut aussi travailler sur d'autres sujets sans faire injure aux victimes. Et ce processus-là, on l'a vu aussi dans d'autres types d'histoires. Hein. On peut travailler sur les relations amoureuses en temps de guerre parce que le travail sur ce que la guerre a provoqué comme massacre, destruction, assassinat a été fait. Et là, il en est de même, mais avec, je dirais, un avantage historiographique, c'est le raccourcissement du temps. On n'est pas obligé de faire 30 années, 40 années d'études qui ne seraient que sur la persécution des homosexuels pour pouvoir se poser d'autres questions qui ont été présentées. Comment vit-on son homosexualité en temps de guerre? Que ce soit à travers l'émigration, que ce soit à travers le mariage façade, que ce soit l'exemple espagnol sous le franquisme, même si c'était juste après la guerre, le montrer aussi. Oui, dans la dictature franquiste, que nous évoque la dictature franquiste, ces femmes arrivaient finalement à vivre leur homosexualité. Et donc je crois que c'est un des autres aspects de cette journée, de travaux qui peuvent maintenant se poursuivre. Voilà, donc je terminerai sur cette remarque, sur le champ considérable qui est ouvert, qui s'ouvre encore plus, en espérant, mais en pensant y avoir contribué, en encourageant évidemment d'autres travaux et en vous remerciant tous, particulièrement la salle cette fois, les orateurs aussi, mais la salle, parce que je sens une frustration de ne pas avoir pu assez poser de questions, intervenir. C'est toujours un peu comme ça. On raccourcit finalement le temps de la discussion parce qu'on court après le temps. Donc nos excuses au nom de nous tous, je pense, pour avoir réduit ce temps-là. Mais en tout cas, merci à tout le monde pour cette journée.
Alors, j'ai le redoutable privilège d'être le dernier intervenant après une journée qui fut fort riche en interventions. Sur deux pôles principaux. Cette journée, donc, comme vous l'avez compris, est une volonté commune donc du CNRS, du rapport de Écrire une histoire nouvelle, du laboratoire Écrire une histoire nouvelle de l'Europe et du Conseil de l'Europe. Donc, de dire pourquoi on s'est posé la question de passer de la mémoire à l'histoire aux commémorations, qui est un ligne, en fait, un fil rouge de toutes nos réflexions. Alors, je dirais le premier problème auquel cette journée a contribué à répondre, c'est comment faire l'histoire pour des groupes minoritaires et pour des groupes qui étaient invisibles. Et donc, le défi pour des groupes minoritaires de reconstruire leurs propres histoires, sachant que l'histoire avec un dominante, eh ben, ces groupes, ils étaient non seulement minoritaires aujourd'hui, ils l'étaient aussi dans le passé, et qu'on ne les intégrait pas. Et on a rappelé aussi, même en termes de commémoration, tout le travail et le combat qu'il y a eu pour que cette reconnaissance d'une mémoire spécifique de la déportation homosexuelle soit reconnue. Alors, il a été juste mentionné la question des sources. Alors, je signale quand même, et ça c'est parce que sur l'intervention sur l'Union soviétique qui a encore montré, on a encore en Europe un problème d'accès aux sources et aux archives sur des questions aussi sensibles que la déportation. Et effectivement, on attend d'ici une, j'espère, vingtaine d'années ou cinquantaine d'années d'avoir réellement une réflexion, une possibilité de dire quelle a été la situation des lesbiennes et des homosexuels en Union soviétique. Mais je pense qu'il faudra confronter le FSB ou le KGB avec l'acceptation qu'il y ait des chercheurs qui fassent un travail historique sur cette particulière période de leur histoire. Alors, comment rendre l'invisibilité de leur histoire, sachant qu'on est aussi finalement dans le domaine de l'intime de personnes qui, à un moment donné, disait, ne disait pas, vivait bien, mal, difficilement, pas difficilement, une orientation sexuelle différente. Alors, on a beaucoup aujourd'hui travaillé sur la question de l'approche de la persécution, et comme il a été rappelé, parce que probablement les sources sont plus évidentes du côté de la persécution, mais je dirais il y a là pour les chercheurs, pour vous, un vrai défi de comment aussi avoir une histoire qui ne soit pas uniquement une histoire de la persécution, y compris pendant la période de la Seconde Guerre mondiale, mais qui soit une histoire de la complexité de avoir été être humain avec une orientation sexuelle spécifique, dans un moment spécifique, qui est la Seconde Guerre mondiale. Et donc l'histoire de la persécution est une partie, mais aussi il devait avoir des histoires d'amour, il devait avoir des histoires de tendresse, il devait avoir des acceptations ou des refus familiaux qui sont aussi importants pour faire l'histoire de ce groupe minoritaire. Alors, l'autre chose, toujours en plus en termes académiques, c'est ce qu'on a eu aussi dans la journée qui était fort intéressant, c'est bien de montrer qu'il s'agit d'une réflexion au croisement de champs académiques et universitaires différents. Donc on a eu plus des approches historiques, des approches légales. Et c'est pas par hasard que ce matin c'était référence à la question du genre, donc on est aussi au croisement d'histoire de l'intime, d'histoire de la masculinité. Là on pense à l'intervention sur l'Italie, sur l'image de l'homme telle qu'elle était véhiculée par le Duce, qui, si on l'a bien compris, était un bon mari, un bon frère et un bon amant potentiel. Donc on ne sait pas s'il faisait aussi fantasme les homos de l'époque. D'avoir le croisement sur des réflexions sur l'intime, des réflexions sur l'image de la masculinité, de la féminité, dans une perspective aussi interculturelle. Il est évident qu'en fonction des cultures, être homo, lesbienne, transgenre en Italie fasciste, en Suède ou en Pologne, ben manifestement, ça devait être autre chose au niveau culturel. Donc, en tenant compte aussi, et aussi un dernier point sur cette premier élément, qui est rendre l'individualité de l'ensemble des personnes qui ont été persécutées. Et là, je fais référence à tous les visages que l'on a vus aujourd'hui, qui est aussi de se souvenir que, à la fois, c'est une réflexion sur un groupe, donc sur une communauté particulière, mais en se souvenant que derrière, c'était des êtres, des hommes et des femmes, comme vous et moi, qui vivaient dans un moment spécifique, et comment on se souvient d'eux, comment on leur rend histoire et dignité, qu'ils ne soient pas morts pour rien, si on veut le dire comme ça. Alors, deuxième point, qui est moins sur le champ académique, que aussi quelque chose qui est assez spécifique dans la journée d'aujourd'hui, c'est qu'il est relativement rare qu'un colloque académique fasse aussi dialoguer des institutions et des représentants, je dirais, politiques. Parce que là, sur un sujet tel que la mémoire de la déportation homosexuelle, eh bien, il est évident que ces enjeux mémoriels sont des enjeux de présent. Qu'on est réellement dans une question de comment on fait dans l'Europe aujourd'hui pour vivre la diversité. Et dans cette diversité, il y a aussi la diversité de personnes qui ont des orientations sexuelles différentes. Et donc, c'est ça qu'il y a derrière, je dirais, en termes politiques, et donc dont l'importance d'avoir un champ académique qui fournit de la connaissance, qui fournit du savoir, et un champ politique qui fait comment on peut, avec ce savoir, le transformer, y compris en lieu de commémoration, en espace de mémoire, et qui soit intégré totalement dans la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Et là, ben maintenant, je vais prendre la partie plus institutionnelle pour le Conseil de l'Europe, avec 5 points sur cet aspect-là. Donc, que les enjeux mémoriels sont des enjeux de présent. Alors, on peut espérer que dans le prochain programme du Conseil de l'Europe, les deux éléments qui ont contribué à ce colloque, qui sont à la fois le travail sur les personnes LGBT et les droits des personnes LGBT et le travail fait sur la mémoire de la Shoah, que ces travaux se poursuivront et recevront encore plus de support de la part du Comité des ministres et de nos États membres. Il a été mentionné la difficulté de la de la participation de l'ensemble des groupes minoritaires dans les lieux et les moments de commémoration. Le Conseil de l'Europe, je dirais, ne vit pas sur la Lune. Nous avons eu le même problème. Et pour l'an prochain, il est clair que la date qui est choisie pour le Conseil de l'Europe, c'est le 27 janvier, donc la libération d'Auschwitz, qui est le moment où l'institution célèbre la mémoire et la libération des camps. Et très clairement, l'an prochain, il y aura une participation des organisations LGBT. Et ça sera la première fois qu'il y aura une prise de parole de ces groupes-là, puisque pour l'instant, c'était principalement la communauté juive qui était, je dirais, et les Roms, communauté juive, premièrement, ensuite la mémoire rome, et maintenant, très clairement, en 2016, nous aurons la mémoire homosexuelle. Troisième piste de travail, c'est aussi de développer un itinéraire culturel des lieux réels de mémoire, de lieux réels ou symboliques de mémoire de la déportation en Europe. Donc on a dans le programme sur la mémoire de la Shoah, il y a déjà un itinéraire sur la mémoire juive en Europe, mais qui est un programme donc, qui remonte, je dirais, historiquement depuis le Moyen-Âge à la présence de la communauté juive en Europe, mais d'avoir aussi une réflexion sur les lieux réel ou symbolique de mémoire de la déportation dans les différentes composantes de la déportation. Donc c'est aussi un projet que l'on porte. Un enjeu pédagogique qui est aussi comment les travaux que vous menez vont trouver leur place dans les curriculums scolaires, dans les manuels, quand on parlera de la Shoah, comment on le fera pour que dans les États membres du Conseil de l'Europe, eh ben, quand on parle de la Shoah dans les manuels scolaires, on signale la diversité des victimes du nazisme, y compris les personnes LGBT. Et évidemment, la question de la commémoration en tant que telle, de lieu symbolique de commémoration, et là, de poursuivre la coopération avec le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux en Europe pour réfléchir comment on peut avoir sur des villes qui, ou des pays, puisqu'il y a donc, il y avait une présentation aussi sur la table des discussions qui ont lieu en France pour avoir aussi un monument. On sait qu'il y a à Paris des discussions qui se mènent aussi autour de cette réflexion-là, d'avoir un monument commémoratif, et donc aussi de contribuer dans une perspective européenne à cette réflexion commémorative. Donc pour conclure, très clairement, un continent qui n'a pas d'histoire, qui n'a pas de mémoire, est condamné à répéter ses erreurs. Et donc, le travail que nous faisons, eh ben, c'est un travail non seulement, je dirais, de mémoire ou d'histoire, mais c'est un travail pour le présent. Et pour le présent, pourquoi ? Parce que l'on sait que le Conseil de l'Europe, et ça a été mentionné ce matin, on dit souvent qu'il est né à l'ombre d'Auschwitz, à l'ombre des cendres d'Auschwitz, et qu'on sait, là je vais citer quelqu'un qui me tient à cœur, et que quand on parle de déportation, c'est quelqu'un qui en plus est mort pas très loin d'ici, puisqu'il s'est jeté du pont des Arts, et il s'est jeté dans l'eau, et qui disait simplement que le lait noir de l'eau, nous te buvons le matin, nous te buvons le soir, lait noir de l'eau, nous te buvons matin et soir. C'est Allemagne Bleibtreumutter, Allemagne Bleibtreumutter de Paul Celan, et d'être sûr que quand nous travaillons et nous réfléchissons à la mémoire de la Shoah, que nous arrivions à faire que ce lait noir de l'eau soit force de vie et non pas ne le conduise pas à la mort. Et ça, c'est un défi académique, humain, politique et citoyen. Et donc, j'espère que nous allons repartir de cette journée en tenant compte de l'ensemble de nos responsabilités. Donc, merci encore à tous nos intervenants d'aujourd'hui. Merci au CNRS de nous avoir accueillis. Merci aux interprètes qui nous ont permis de communiquer pendant notre journée. Et donc, je me joins au regret de ne pas avoir eu plus de temps de débat et je redonne la parole pour des derniers remerciements.
Oui, je me joins évidemment à tous ces remerciements. Deux, trois mentions supplémentaires. Julie Legac et Mathieu Gestin, qui sont des chercheurs du LABEX et qui ont passé une grande partie malheureusement de la journée en haut, et vous verrez en reprenant votre pièce d'identité, vous pourrez les remercier de vous voir. Merci à eux, parce que sinon ce n'est pas possible. Lucrif qui fait la captation vidéo qui nous permettra de mettre cette journée en ligne pour ceux qui auraient raté malencontreusement un instant. le libraire qui est toujours là, voilà, très patient, pensez à aller le voir. Puis une mention très spéciale pour Régis Lagdanofen, qui a quand même pensé, été à l'initiative, à l'idée de cette journée. Et je crois que là aussi, on peut l'applaudir très chaleureusement. Voilà, on a passé une longue journée intense et maintenant je crois qu'il est temps de nous séparer. Bonne soirée à tous et encore merci.
J'espère que j'ai oublié personne. Toujours l'angoisse.